Bonjour, au micro Idrissa Seroudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le leader américain des droits civiques Al Sharpton a déclaré hier « Tu as changé le monde, George ». Il le prononçait jeudi lors d'une cérémonie en hommage à l'Africain-américain George Floyd, un émouvant éloge funèbre aux accents politiques, empreint de tristesse mais également d'espoir, pour un monde meilleur avec la promesse de continuer le combat. 8 minutes et 46 secondes de silence ont été observées. C'est le temps qu'a passé un policier blanc agenouillé sur le cou de George Floyd, mort asphyxié le 25 mai lors de son interpellation, un événement qui a provoqué une vague historique de colère aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Le frère du défunt, Philonise Floyd, a lui dénoncé sous les applaudissements ce qu'il a appelé la pandémie de racisme et de discrimination qu'il a emporté. Des manifestations, très généralement pacifiques et recueillies, ont une nouvelle fois eu lieu hier dans tout le pays pour réclamer justice et la fin des discriminations raciales après plus d'une semaine de protestations contre les brutalités policières qui ont parfois dégénéré en pillages et violences. Des milliers de personnes, toutes origines confondues, ont ainsi défilé dans les rues de New York ainsi qu'à Washington, Seattle et Los Angeles, trois villes où le couvre-feu a été levé. La puissante Organisation américaine de défense des droits civiques, ACLU, et d'autres organisations ont déposé une plainte contre le président Donald Trump après la dispersion violente lundi de manifestants pour permettre au président de poser une Bible à la main devant une église toute proche de la Maison-Blanche. Les ministres de la Justice et de la Défense ainsi que d'autres hauts responsables sont également visés par cette plainte. L'un des hommes accusés d'avoir tué en février un jogger noir, Ahmad Arbery, dans un quartier résidentiel de Brunswick, dans l'État américain de Géorgie, a proféré une insulte raciste après avoir ouvert le feu, a révélé ce jeudi l'enquêteur chargé de cette affaire qui a provoqué un grand émoi dans le pays. En bref, le Brésil est devenu jeudi le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au coronavirus, en dépassant les 34 000 morts devant l'Italie, après un nouveau record de morts enregistré en 24 heures. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé qu'un futur vaccin contre le COVID-19 devait être considéré comme un bien public mondial, accessible à tous, et c'était lors d'un sommet virtuel réunissant plus de 50 pays et plus de 35 chefs d'État et de gouvernement. L'Afrique du Sud a enregistré en l'espace de 24 heures 3267 nouveaux cas de COVID-19, soit la plus forte augmentation depuis le début de la pandémie dans le pays, qui compte désormais 40 792 cas et 848 morts. Rien n'a été fait à l'insu du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est défendu ce jeudi son allié politique et ex-directeur de cabinet Vital Kamerhe, principal accusé d'un procès anticorruption sans précédent. On utilise abusivement le nom du chef de l'État, a protesté Marcelin Bilomba, témoin à charge et conseiller de M. Tshisekedi. Le procès a été renvoyé au 11 juin pour les plaidoiries. La Banque africaine de développement a annoncé hier une enquête indépendante demandée par Washington sur les accusations de prévarication portées par des lanceurs d'alerte contre son président, le Nigérian Aki Nwumi Adesina, candidat à sa réélection fin août. Monsieur Adesina a clamé à plusieurs reprises son innocence. Le massacre d'étudiants chinois sur la place Tiananmen en 1989 est une tragédie qui ne sera jamais oubliée, a affirmé jeudi soir la Maison-Blanche. Voilà, c'est tout pour le moment. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a rejeté hier le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai et proclamé président élu le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Nathalie Barge.
Les recours du chef du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales sont nuls et de nul effet, a annoncé l'un des 7 juges de la Cour constitutionnelle. La Cour a validé les résultats définitifs donnant le candidat du parti au pouvoir, CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, vainqueur de la présidentielle avec 68% des voix contre 22,42% à Agathon Rwasa et 2,46% à Gaston Sindimwo de l'UPRONA. La Cour constitutionnelle a estimé que le CNL n'avait pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de son argumentation. On n'est pas surpris car la justice n'est pas indépendante au Burundi, a déclaré le secrétaire général du CNL, Simon Bizimungu. Évariste Ndayishimiye sera investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Il va succéder ainsi à Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005.
Au Mali, plusieurs associations de la société civile et des politiques organisent un rassemblement dont le mot d'ordre est la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré toutes les démarches et les tentatives de report, les organisateurs maintiennent la tenue de leur manifestation à la place de l'indépendance de Bamako. Kassim Traoré, notre correspondant sur place.
Parmi les organisateurs de ces rassemblements figurent l'Union pour la République et la Démocratie, URD, de Soumaïla Cissé qui est en captivité il y a 73 jours, Moussa Seydi Diallo, membre de l'URD.
Ce qui est arrivé à notre président aujourd'hui est arrivé à lui parce que il y a une gestion chaotique. Et cette gestion chaotique, partout où elle doit être combattue, nous serons là-bas pour la combattre. Et nous, on est impliqués par rapport à ça et on sera impliqués, on se battra jusqu'au dernier pour que la situation puisse changer.
Durant toute la semaine, le président de l'Assemblée nationale du Mali, les partis de la majorité et certains leaders religieux ont demandé en vain le report du rassemblement du jour. Seydou Konaté, activiste.
Moi, je pense que le moment est mal choisi pour pouvoir demander, c'est-à-dire la démission du président de la République, à mon avis. Et ces gens-là qui sont là aujourd'hui en train de manifester, c'est cette marche-là. Ça veut dire qu'ils ont en toute honnêteté, même s'ils ne disent pas, c'est-à-dire qu'il y a une idée derrière la tête. Donc, ce n'est pas juste pour faire dégager le président de la République banalement, mais c'est juste, ce sont des politiciens, c'est-à-dire des mains cachées derrière toutes ces idées.
Déjà, l'armée malienne et les forces de sécurité ont pris des dispositions pour sécuriser la capitale malienne et la manifestation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, a prévenu hier que les tueries de civils en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Les détails avec Jacques Aristide.
Madame Ben Souda indique qu'une mission de son bureau sera déployée en RDC dès que les conditions liées au coronavirus le permettront. Sa déclaration survient le lendemain du nouveau massacre d'au moins 16 civils dans la province de l'Ituri. Un rapport des Nations Unies a indiqué que 701 personnes ont été massacrées en Ituri depuis décembre 2017. Michel Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a effectué une visite en Ituri fin janvier. Elle avait déclaré que les crimes contre l'humanité étaient confirmés. Depuis, plusieurs centaines de personnes ont été massacrées dans les territoires de Djougou et Mahagi, au nord, dans la région de Bounia. Les tueries sont attribuées à des éléments armés d'une secte ethnico-mystique, la coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, prétend défendre les intérêts et les terres des Lendou qui sont agriculteurs face aux EMA, plutôt éleveurs et commerçants. La procureure de la CPI encourage Kinshasa à intensifier ses efforts pour que des enquêtes véritables soient menées. L'armée affirme régulièrement mener des opérations contre la CODECO, dont elle a affirmé fin mars avoir éliminé le chef Justin Goudjolo.
La Minute Éco et Kiabadou.
Face à des géants américains comme Amazon et Microsoft, les opérateurs africains de data centers veulent grandir pour les attirer ou leur résister. Standard Bank, l'une des 4 plus grandes banques d'Afrique du Sud, a cédé son centre de données à Africa Data Center, un opérateur qui est spécialisé dans la construction et la gestion de data centers sur le continent. Le marché, estimé à 500 millions de dollars en 2018, est en très forte croissance, de 30 à 40% par an selon les marchés. Aux États-Unis, de nombreux investisseurs se sont rués sur les actions et les obligations d'entreprises, poussant les valeurs à des niveaux historiques, alors même que les fondamentaux de l'économie américaine se sont dégradés avec la Covid-19. Traditionnellement, lorsque le chômage est en hausse, les cours boursiers ont tendance à baisser. Pourtant, l'indice composite Nasdaq des valeurs technologiques a progressé de 6%, effaçant une grande partie de ses pertes dues au coronavirus. Avec un premier trimestre décevant, une baisse des exportations de plus de 13 000 tonnes et un regain d'activité observé au mois d'avril, les exportations de la banane camerounaise ont à nouveau piqué du nez au mois de mai 2020. Selon les chiffres compilés par l'Association bananière du Cameroun, ces exportations ont culminé à 11 872 tonnes au mois de mai 2020 contre 16 135 tonnes en mai 2019, ce qui révèle une baisse d'environ 4 200 tonnes.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous, direction le Mali pour commencer. Avec la reprise à petit feu des entraînements chez certains clubs de football en Ligue 1, après le Djoliba AC la semaine dernière, le stade malien de Bamako a retrouvé son centre d'entraînement. La saison 2019-2020 n'est pas encore bouclée et la fédération compte bien le faire. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous fait le point de la reprise des entraînements au stade malien.
Les entraînements ont repris dans une atmosphère bon enfant. Malgré la maladie à coronavirus, selon le coach du stade malien de Bamako, Djibril Dramé, plus de 2 mois sans football, l'envie s'était vite sentie chez les joueurs. C'est pourquoi ils sont revenus beaucoup plus motivés et requinqués à renouer avec la tradition. Pour la saison qui s'achève, l'objectif est clair. Il s'agira pour les Blancs de Bamako de faire partie des 2 représentants du Mali aux compétitions africaines. L'atteinte de cet objectif est bien possible, a indiqué le coach Dramé. Premier de sa poule à une journée de la fin du championnat, avant les matchs du Carré d'As, il s'agira pour le stade malien de Bamako d'aller à la conquête du titre de champion et de remporter la Coupe du Mali. 2 défis majeurs à la portée du stade malien selon son coach. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En Tunisie, la Fédération de football a annoncé que les Aigles de Carthage reprendront leurs entraînements lundi prochain à la faveur d'une levée des mesures de restriction. Pour la Ligue 1, le championnat national, la Fédération a fixé sa reprise à huis clos le 2 août. Les entraînements pourront redémarrer également à huis clos début juin. Le lancement de la prochaine saison 2020-2021 de la Ligue 1 est lui prévu le 31 octobre. La sélection tunisienne devait disputer en mars 2 matchs contre la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais ils ont été reportés. Le guide sanitaire de reprise prévoit des matchs à huis clos, sans embrassade ni accolade, et des entraînements en plein air, avec un suivi médical spécifique des joueurs qui devront être testés. En Angleterre, la Premier League a décidé d'autoriser temporairement 5 remplacements par équipe et par match et la présence de 9 remplaçants sur le banc au lieu de 7 quand la saison reprendra à la mi-juin. Le championnat anglais doit retrouver le chemin des terrains pour disputer les 92 rencontres restantes de la saison avant fin juillet. Après 2 matchs en retard à jouer le mercredi 17 juin, il restera 9 journées complètes à caser en 6 semaines et demie pour atténuer les effets de ce rythme soutenu, surtout après 3 mois d'inactivité et 3 semaines seulement d'entraînement avec contact. La FIFA a proposé cette mesure validée par l'International Board. La Premier League est allée plus loin en acceptant aussi une demande de Chelsea qui voulait 20 joueurs sur la feuille de match au lieu des 18 habituels, là encore, jusqu'à la fin de la saison.
Écoutez, VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, après 48 heures de manifestations qui ont secoué le pays, les autorités ont décidé de procéder à un nouvel assouplissement des restrictions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le couvre-feu passe ainsi de 21h à 23h et l'interdiction des transports interurbains va être levée dès dimanche. Malgré ces annonces très attendues, les Sénégalais ne sont pas totalement satisfaits. De Dakar, c'est Dina Abagay.
Les transporteurs qui ont déclenché la vague de contestation à travers le pays sont les premiers à se réjouir de l'allègement des restrictions, même s'ils relèvent des insuffisances. Mor Ndiaye est un chauffeur sur l'axe Dakar-Touba. Il estime que le maintien du couvre-feu à 23h peut encore être un souci.
Tu sais, Dakar et Touba, c'est des kilomètres. Tu peux partir à Dakar à partir de 15h et tu tombes panne sur la route. Et quand tu tombes panne, tu ne dois pas laisser la voiture là-bas. Si tu, une fois dépanné, tu reprends la route. Et en ce moment, tu peux même 23h, il peut te trouver sur la route.
Les autorités ont commis des erreurs qui ont poussé les populations à bout, créant ainsi une pression sociale intenable pour le président de la République. Telle est la conviction de Ousseynou Souaré.
Les gens, là, actuellement, tout le monde en a ras le bol du confinement. Parce que les mesures, si les mesures étaient adéquates, peut-être qu'on n'en serait pas là. Les gens qui attendent jusqu'à présent de recevoir leur aide n'ont pas reçu leur aide. Les gens ne travaillent plus. L'économie est en train vraiment de partir en lambeaux. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Raison pour laquelle ces émeutes vont continuer. Et c'est la faute du président du gouvernement sénégalais qui n'a pas su, dès les premiers signes, voilà, contenir la maladie et puis voilà, prendre les mesures qui doivent être adaptées à la chose.
Depuis le début de la pandémie en mars, les autorités donnent l'impression de faire du pilotage à vue pour éviter certains obstacles. Après deux nuits de violentes émeutes de Touba à Dakar, le gouvernement recule à nouveau face à la pression de la rue et avance le dépassement du pic comme justificatif de l'assouplissement. Mais là encore, ça sème le doute dans l'esprit de certains citoyens. Alun Badra Gueye n'est pas convaincu par cette affirmation.
Non, pour moi, franchement, je crois qu'on n'a même pas atteint la moitié même, plutôt que le pic. Mais au Sénégal, ici, si on avait atteint le pic, voilà, ça devait être, normalement, ça devait être la catastrophe. Le pic, si on l'avait atteint, ça devait être la catastrophe. Mais en ce moment, tu vois des rassemblements, il n'y a même pas de cas. Tu vois même pas un membre que tu connais, un homme que tu connais te dire que moi, j'ai le corona, je suis malade, tout ça. En tout cas, ça devait mitiger, ouais, on comprend même pas. Les décisions de l'État, c'est un peu, ils prennent des décisions, mais ils n'assument pas leurs responsabilités.
Au-delà des aménagements sur le couvre-feu et la levée de l'interdiction des transports interurbains, le gouvernement a également décidé d'assouplir les restrictions sur les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les salles de jeu. Des décisions pour calmer les frustrations d'une population qui s'est dit fatiguée par les tâtonnements des autorités dans la gestion du Covid-19. À Dakar, c'est Dina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, les avocats et ONG de défense des droits de l'homme réclament une justice équitable pour le jeune Ibrahim Bello. Ce dernier avait été torturé alors qu'il était âgé de 17 ans dans un commissariat de police en 2017 dans la ville d'Ombessa, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Il était soupçonné par un particulier d'avoir tenté de voler son véhicule. Le verdict rendu dans le cadre de cette affaire contre les deux policiers accusés de torture est vivement contesté par une vingtaine d'ONG qui suivent cette affaire. De Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Mardi dernier, le consortium des ONG mis en place pour la défense du jeune Ibrahim Bello a fait une déclaration dans laquelle la décision de justice rendue le 6 mai dernier est qualifiée, citation, de « honteuse et humiliante », fin de citation. En effet, le tribunal de grande instance d'Umbam et Inoubou dans la région du centre a condamné deux policiers qui ont torturé à la machette et à l'électricité Ibrahim Bello. L'un des policiers a été condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme et l'autre à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Victor Cadier est le président du collectif d'avocats qui défend les intérêts d'Ibrahim Bello.
Nous estimons que le tribunal a été un peu complaisant sur deux aspects. La condamnation de l'officier de police a été assortie de sursis. Il n'a même pas été mis en détention pendant toute la procédure. Et nous estimons que c'est un mauvais message qu'on passe aux autres policiers qui peuvent croire que impunément on peut massacrer les citoyens comme on veut. Nous contestons également la décision sur le plan de la réparation du préjudice subi.
Les dommages et intérêts aversés par la délégation générale à la sûreté nationale au jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 ans, ont été fixés par le tribunal à 50 millions de francs CFA, alors que la victime avait exigé environ 1 milliard. À la suite de la torture dont il a été victime, Ibrahim Bello a perdu des membres inférieurs par imputation, mais aussi un membre supérieur paralysé. Pour sa réinsertion socio-économique, le gouvernement lui a octroyé un financement à hauteur de 500 000 francs CFA pour un projet dans son village. Ce que dénonce Jean-Claude Fognon, secrétaire permanent de l'ONG Mandela Center International, une ONG qui suit cette affaire depuis 2017.
C'est une insulte, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui deviendra pratiquement avec cette activité? Nous avons eu à proposer à l'État un projet d'environ 50 millions. Ce projet a été foulé de pied.
Dans une lettre dont VOA Afrique a obtenu copie, la famille d'Ibrahim Bello a rejeté catégoriquement les dons offerts par le Centre National de Réhabilitation des Handicapés, un centre qui a accueilli le jeune homme pendant 3 ans lors de sa rééducation. Selon le directeur général de cette structure gouvernementale, l'État s'est toujours porté garant de la prise en charge du patient Bello. Mais d'après Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, le problème que soulève l'affaire Ibrahim Bello se rapporte plus aux sanctions des cas de violation des droits de l'homme au Cameroun.
Nous comptons bien nous appuyer encore une fois de plus sur ce cas Ibrahim Bello pour faire bouger les lignes. Il ne s'agit pas de dire qu'on reconnaît qu'il a été torturé. Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait pour donner la garantie de non-répétition, si ce n'est à travers, effectivement, la sanction exemplaire?
Le code pénal camerounais réprime la torture pour des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une 12e épidémie d'Ebola s'est déclarée, mais cette fois-ci, elle est de retour dans Mandaka, dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays. Le pays se bat aussi depuis 2 ans contre le virus dans l'Est. À cela s'ajoute la pandémie de COVID-19 qui a déjà touché un peu plus de 3600. Eddie Sango a joint à Kinshasa le directeur national de l'hygiène aux frontières, le docteur Dede Nungi Nungi.
À ce jour, ou sinon jusqu'à hier soir, nous avons enregistré 11 cas qui se sont avérés positifs localement au niveau de Mbandaka, et parmi lesquels il y a déjà 4 confirmés au niveau de l'INRB Kinshasa. On a pu lister 125 contacts de ces 11 cas. Mais retenez aussi que parmi les 11 cas, il y a un qui est de Bikoro, il n'est pas de Mbandaka. Donc toutes les commissions sont mises en place et le travail s'est fait déjà à ces jours.
Ebola a refait surface en Mbandaka dans l'Équateur, alors que la RDC se bat encore pour en finir avec l'autre épidémie dans l'Est. Comment faites-vous pour gérer les deux ensemble?
C'est vrai que c'est la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola et que beaucoup de ces épidémies ont été rencontrées au niveau de l'Équateur. Donc ça signifie que localement, il y a déjà des compétences sur lesquelles nous pouvons compter. Mais nous avons au niveau central dirigeanté une équipe d'experts qui travaille, qui accompagne les gens qui travaillent localement en Mbandaka. Et du côté de l'Est, nous avons encore des experts qui sont là, qui continuent à maintenir la surveillance épidémiologique, surtout que ça remonte à plus de 56 jours qu'il n'y a pas de cas positifs à l'Est. Donc, on s'emploie quand même à bien faire le travail de part et d'autre.
Est-ce que cela ne vient pas compliquer votre travail, surtout que le COVID aussi s'accroît en RDC? Il y a un grand nombre maintenant à Kinshasa, et même les provinces qui n'étaient pas touchées sont maintenant touchées.
Oui, comme vous le dites, c'est un problème qui s'ajoute parmi tant d'autres problèmes que nous avons au niveau de la République. Il n'y a pas qu'Ebola, il n'y a pas que Covid-19, mais il y a la rougeole, il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont là, il y a beaucoup d'autres épidémies, donc choléra par exemple, tout ça. Mais nous avons suffisamment de ressources humaines capables d'être déployées dans tous ces fronts pour améliorer les choses sur terrain. Donc, on s'emploie avec des plans déjà réalisés et réalistes pour qu'on puisse maîtriser la situation au niveau de Mbandaka.
Vous parlez des moyens humains, mais est-ce qu'il y a des ressources financières et matérielles pour faire face à toutes ces épidémies à la fois, puisque déjà avec la Covid, la RDC a dû avoir des soutiens.
Oui, mais c'est comme vous venez de le dire, la République démocratique du Congo dispose suffisamment de ressources humaines. Mais là où nous avons un gap à combler, c'est en rapport avec les ressources matérielles et financières. Les partenaires qui nous écoutent, ceux qui peuvent aider la République, pour moi, c'est une opportunité de mener ces plaidoyers de façon à pouvoir nous soutenir par rapport à cette 11e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Le docteur Dédé Nungi, directeur national de l'hygiène aux frontières de la RDC à Kinshasa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Aux États-Unis, 8 États et Washington DC, la capitale fédérale, ont tenu mardi des élections primaires. C'était au milieu des manifestations contre la brutalité policière et la pandémie de coronavirus. Avec toutes les manifestations contre le racisme, Joe Biden, l'ancien vice-président démocrate, est sorti renforcé dans sa quête pour l'investiture de son parti dans la course très polarisée à la Maison-Blanche. Reportage de Brian Padden de la VOA, repris ici par Gabi Dorsil.
Sans opposition majeure au sein de son parti, l'ancien vice-président Joe Biden a remporté plusieurs primaires cette semaine. Il se rapproche ainsi de l'investiture démocrate pour faire face au président Donald Trump le 3 novembre prochain. Les résultats de ces primaires ont été sans surprise car de nombreux partisans de Biden sont toujours très motivés, donc très mobilisés. Comme en témoigne Nicola Utilo, un électeur du Rhode Island.
Il est très important de pouvoir venir ici ce matin et remplir un cercle à côté du nom de quelqu'un qui, je suis sûr, va restaurer l'honneur et la décence à la présidence.
Plusieurs jours de manifestations tendues, parfois violentes, pour protester contre la mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, ont ravivé les tensions raciales aux États-Unis, alors que le pays continue de lutter contre la pandémie de coronavirus et le chômage massif. Le président Donald Trump a affiché lundi la fermeté contre les manifestations violentes, les pillages et a même menacé de déployer l'armée américaine pour rétablir l'ordre public.
I will fight to protect you.
Je vais me battre pour vous protéger. Je suis votre président de la loi et de l'ordre et un allié à tous les manifestants pacifiques.
En revanche, Joe Biden a appelé à l'unité et l'empathie pour répondre à ces troubles.
For that's what the presidency is. The duty to care.
C'est ça la présidence, le devoir de prendre soin de nous tous, pas seulement de ceux qui votent pour nous, mais de nous tous, pas seulement de nos donateurs, mais de nous tous.
Les détracteurs du président Trump ont déclaré que sa rhétorique et ses actions pour obliger les forces de l'ordre à repousser les manifestants pacifiques à l'extérieur de la Maison-Blanche ont transformé le droit de manifester, un droit fondamental, en un problème de campagne électorale conflictuelle menaçant la démocratie elle-même. Alan Lickman, professeur d'histoire à American University, ici même à Washington.
Je pense que nous sommes à un tournant de notre démocratie. Je ne pense pas que nous devons écouter le discours de Donald Trump lundi soir. Son évocation d'une solution militaire au-delà de l'impact immédiat et le voir comme une tendance vers l'autocratie.
Mais la réponse plus modérée de Biden aux manifestations risque d'aliéner les électeurs indépendants qui veulent des mesures fortes face à la destruction de biens et au pillage.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.